Vous suivez les programmes du studio Kalangou, il vient d'être 17h et vous êtes en direct pour suivre l'édition en français avec Rouké et Topdraman. Au sommaire, les individus qui ont dérobé les 55 millions dans les coffres forts de l'université de Tawa sont dans les mains de la police. Les coupables ne sont autres que le gardien et le manœuvre de l'institution. Plus de détails dans un instant. Les femmes rurales à Birinkoni qui migrent vers la ville pour des travaux domestiques rencontrent des difficultés à suivre quelques témoignages dans ce journal. En partie magazine de ce soir, nous allons toujours rester à Birinkoni pour voir l'importance de la pesée des nourrissons. Nous sommes mardi 6 février 2024. Bonsoir fidèles auditeurs, merci de nous recevoir. Nous en savons un peu plus sur les 55 millions de francs CFA volés dans les coffres forts de l'université de Tawa. Les criminels là-dedans manœuvrent à l'université de Tawa et Dodo, gardien de la dite institution, ont livré des nouveaux aveux à la police. Bonne nouvelle, les autorités ont récupéré la quasi-totalité de l'argent dérobé. Écoutons les précisions du commissaire Cheibou Abdou Babouga de la police judiciaire de Tawa au micro de Yawale Abdoulmoumouni.
Nous avons été saisis par l'université de Tawa de ce qu'un vol a été commis dans l'enceinte de cette université. Nous nous sommes transportés sur les lieux. Donc, après les constatations, nous avons demandé tous les gardiens qui travaillent au sein de l'université d'Ottawa de se rendre au commissariat afin d'être auditionné. Malheureusement, il y avait un qui avait pris la fuite. Donc, après avoir auditionné tous les gardiens, nous avons identifié deux parmi eux, dont un gardien et un manœuvre. Tous des travailleurs au niveau de l'université d'Ottawa. Ils ont avoué les faits. L'argent a été retrouvé puisque sur les 55 millions, nous avons eu à retrouver 54 894 000. Et l'un des mis en cause a déjà dépensé 5 000. Donc sur les 55 millions, on peut dire que c'est 6 000 seulement. On ne sait pas là où ils ont mis les 6 000 francs.
Cette fois-ci, c'est un réseau de voleurs de motos qui a été démantelé dans le département de Birinkoni par des éléments des forces de défense et de sécurité. Les autorités ont présenté ce matin une bande de 8 personnes. Selon le commissaire départemental de la police de Birinkoni, ces criminels opèrent sur le territoire du Niger en complicité avec des receleurs côté Nigeria. On écoute le commissaire Abiyou Souley au micro de Asumana Moussarzika.
La particularité de cette bande, c'est que les membres ils se regroupent ici à Koni. Il y a ceux qui viennent de Tawa, ceux qui viennent de Madawa, il y a ceux du Nigeria. Ils commettent les vols ici à Koni, mais les receleurs se trouvent de l'autre côté du Nigeria. Dès le mois de décembre, janvier, nous avons enregistré plusieurs déclarations de vol de motos dans la ville de Koni. Par jour, on peut voler 3-4 motos. Donc, elles ont empêché la population de dormir tranquillement. Tous ceux qui possèdent la moto ne dormaient pas pendant les 2 mois passés. Donc maintenant, suite aux investigations menées, nous avons pu mettre la main sur l'essentiel des membres des réseaux, qui sont au nombre de 8. Les receleurs se trouvent du côté du Nigeria. Complexité du démantèlement de ces réseaux, c'est que tous les membres des réseaux résident au Nigeria, que ce soit les Nigériens et les Nigériens. Ils rentrent uniquement pour voler et ressortir rapidement. Et compte tenu du fait qu'il y a beaucoup de voies de contournement, donc c'est facile pour eux de rejoindre le Nigeria. Et les receleurs sont des nationalités nigériennes. Et quand ils achètent les motos, il y a ceux qui dépècent les motos et il y a ceux qui les revendent.
Restons toujours à Birinkoni, des femmes quittent les villages vers la ville à la fin de la période des récoltes. Objectif, chercher du travail domestique afin de se nourrir et souvenir aux besoins de leur famille. Suivons les témoignages de quelques femmes au micro de Haruna Ibrahim.
Je suis là en fait c'est pour chercher un travail de domestique, pour subvenir à mes besoins et aussi aider mes parents. Bon, je ne peux que dire Dieu merci et quand j'aurai économisé un peu plus, je compte aussi préparer mon trousseau de mariage.
Je suis venue chercher du travail. Je suis avec ma mère et mes amis. C'est la première fois que je viens en ville à la recherche du travail pour subvenir aux besoins de ma famille. J'ai 19 ans et je n'ai jamais été à l'école. Mais mes sœurs, elles ont été inscrites à l'école.
Parlons santé à présent. L'utilisation des produits aphrodisiaques traditionnels à Birnin-Konni, des sources médicales locales constatent une habitude de consommation chez les fiancés avant leur mariage. Attention, les médecins alertent sur l'abus de ces produits. Dr Omar Abdoulaye, médecin traitant du district sanitaire de Birnin-Konni, précise les risques sanitaires liés à la consommation de ces produits. Des propos recueillis par Harouna Ibrahim.
Les conséquences sont nombreuses. Si une femme fait usage continuellement de cet aphrodisiaque traditionnel, cela peut porter atteinte à sa santé. C'est des produits que les femmes ignorent, la composition et leur provenance. Des produits traditionnels qui peuvent provoquer le cancer chez la femme ou une infection. Une infection aussi qui peut conduire à la stérilité de cette femme. Donc en cherchant à faire mieux, on se détruit. Les cycles menstruels peuvent être perturbés ou même stoppés. La femme qui en fait usage peut infecter son mari, le cas échéant, sa coépouse ou ses coépouses en cas de polygamie via leur époux commun. Ce n'est pas bon du tout.
Partons à Kirozérine, région d'Agadez, pour parler santé encore. Le centre de santé intégrée de Sonichar a enregistré 5 cas de diphtérie. Il s'agit d'une maladie infectieuse et contagieuse qui touche les voies respiratoires supérieures et le cœur du patient. Au micro d'Ahmed Fellan, le chef du centre de santé intégrée explique le contexte de surveillance de la diphtérie dans la zone Algabite Anousra, insiste sur la prévention de la maladie. On l'écoute.
On a reçu quelques cas de diphtérie. Elle a fait cette apparition au niveau de la localité de Tamazla. On a eu 5 cas. Donc la diphtérie, c'est une maladie d'abord qui touche au niveau de la gorge. C'est des angines et après qui se compliquent. Donc quand vous ouvrez la bouche du patient, vous allez apercevoir donc un truc blanchâtre au niveau des amygdales. Et donc c'est ça qui bloque souvent la respiration. Et tu vas voir la personne en train de saliver. Et tout ce qu'il mange peut être ramené au niveau des narines. Donc la première mesure, c'est d'abord la vaccination. Normalement, à la naissance, il y a le calendrier vaccinal des enfants. Donc c'est la première prévention. Donc les pentavalents, c'est ça qui doit être fait aux enfants. Et on a remarqué souvent au niveau des Bruxelles, cette vaccination est négligée.
On reste en santé pour parler de la première maladie génétique au monde, la drépanocytose, maladie héréditaire du sang provoquant l'arrêt de la circulation dans les capillaires due à une anomalie de l'hémoglobine. Elle emporte chaque année près de 200 000 personnes, dont 50 à 75% des enfants âgés de 0 à 5 ans. Au Niger, le Centre national de référence de la drépanocytose précise que la maladie progresse de 18% en 1907. En 1987, les cas de drépanocytose sont passés à 25% en 2023. La prise en charge de la drépanocytose manque de subventions selon la présidente de l'association qui lutte contre la drépanocytose, les propos de Madame Hima Fatimatou au micro de Amadou Harouna Jibo Ismaël.
La prise en charge, elle est très pénible, elle est très coûteuse parce qu'un enfant drépanocytaire peut faire 4 à 5 crises dans l'année, au minimum, s'il n'y a pas de complications. C'est-à-dire en état normal, sans complications. Parce qu'avec complications, c'est presque permanent. Et une seule crise varie entre 50 000 jusqu'à 500 000. Et en cas de complications, ce sont des millions. Vous voyez que la prise en charge, elle est très coûteuse. Elle n'est même pas à la portée des parents. Et on n'a pas d'assurance maladie au Niger. On n'a aucune contrepartie qui aide les parents et les malades à prendre en charge cette maladie. Il faut que l'État pense à soutenir les familles drépanocytaires. Alors qu'il y a des familles qui ont jusqu'à 3 à 4 enfants drépanocytaires. Donc, voyez comment vit cette famille-là. J'appelle aux personnes de bonne volonté, à l'État aussi, de penser vraiment à subventionner le traitement, la prise en charge de la drépanocytose.
Autre aspect de ce journal, 160 jeunes filles du canton de Tessawa ont reçu samedi dernier leur kit de réinsertion socio-économique. Le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA a remis 3 chèvres par personne en plus des caprins. Le groupe de filles se départissent se répartissent 80 machines à moudre, des sacs de soja, des bidons d'huile et des accessoires pour la production du awara, fromage de soja. Témoin de l'événement, le chef de canton de Tessawa, l'agence onusienne veut participer à la lutte contre le chômage selon Seibou Kabore, représentant de l'UNFPA au Niger, ses propos au micro de Ilias Moumouni.
Nous célébrons la formation et l'équipement de jeunes filles. Pourquoi cela? Parce que le chef a compris que lorsque la jeune fille est en bonne santé et qu'elle arrive à avoir une formation professionnelle et qu'elle arrive ensuite à avoir des revenus, les revenus de la famille augmentent, les revenus du mari ou du futur mari augmentent et les revenus de toute la région aussi s'accroissent. Et ça influe sur toute la nation, parce que comme on le dit, une seule personne ne peut pas. Mais quand on est deux et quand on est une équipe, on va plus loin. Et c'est en cela que former les jeunes filles à côté des hommes est une façon d'aider le pays à avancer. Le potentiel des enfants, lorsque la femme vit plus longtemps, augmente aussi. Nous allons, avec le chef traditionnel, remettre des kits. Mais ce n'est pas, ça ne s'arrête pas là. Il ne s'agit pas d'avoir des équipements. Il s'agit de faire en sorte que demain, tout le monde soit fier.
Direction Menesoroa, c'est la région de Difa. Les membres des comités villageois de la protection viennent de boucler une formation sur les droits fondamentaux des enfants. La direction départementale de la protection et IRC, International Rescue Committee, ont réuni pour la circonstance des réfugiés de retour dans le département, des déplacés internes et des autochtones de la commune urbaine de Menesoroa, des bénéficiaires reconnaissent l'importance de promouvoir les droits des enfants. On les écoute au micro de Maman Idrissa.
Qu'est-ce qui amène ces inconvénients avec la cohabitation entre les communautés, les FADA? Quelle est la voie à suivre pour mettre fin à cette situation, pour que les jeunes ne puissent pas suivre leurs
études? Je suis vraiment satisfaite de cette formation qui concerne l'éducation des enfants. C'est surtout pour attirer l'attention des parents, car beaucoup d'actes posés par les enfants, c'est de leur faute en fait. Ils doivent s'impliquer davantage dans l'éducation de leurs enfants. C'est pourquoi nous disons que nous sommes très satisfaits de cette formation.
Un enfant est toujours un mineur. Il faut toujours surveiller ses fréquentations. Et tout acte posé par un mineur, ce sont ses parents qui endossent la responsabilité.
Le magazine de ce mardi nous amène dans la commune urbaine de Birninkoni, direction le centre intégré du quartier Sabongari. Des femmes allaitantes s'y rendent chaque jour pour la pesée et la vaccination des nourrissons. Pour la santé des bébés, les mères de Sabongari et des environs ne manquent pas ce rendez-vous médical. Dossier de Ibrahim Harouna, rendu par Fanta Chamsou.
Chaque jour, entre 8h et 13h, une cinquantaine de femmes fréquentent le bloc PMI, protection maternelle et infantile du centre intégré du quartier Sabongari. Madame Nagari Hadiza, responsable des pesées et vaccinations, se réjouit de la régularité des femmes.
Les femmes ont bien compris l'importance de l'apaiser des nourrissons. Elles viennent massivement, surtout pour la vaccination qui protège l'enfant des maladies dès la naissance. Car comme le dit un adage, mieux vaut prévenir que guérir.
En cette période de l'armatan, la responsable des pesées et vaccinations prodigue des conseils pratiques aux mamans. Elle insiste sur la protection des bébés de les fraîches matinées de Birninkoni.
Certes, les femmes sont bien attentives, mais j'attire davantage leur attention sur le comportement de certaines femmes qui ne protègent pas leurs enfants en cette période de fraîcheur. Le matin, avant de venir au CSI, elles doivent faire une petite toilette au bébé et lui faire porter des habits bien chauds, sans oublier la cagoule et les chaussettes.
Madame Mariam, qui fréquente régulièrement le centre de santé, s'est dit satisfaite de l'accueil que leur réservent les infirmières. Son témoignage.
Les agents de santé nous accueillent et nous facilitent bien la consultation postnatale. Vraiment, l'accueil est bien pour une bonne consultation postnatale. L'enfant dont la consultation a été respectée est mieux que celui qui n'a pas reçu de consultation. Donc, c'est important de respecter les consultations et les carnets vaccinaux de l'enfant. Pour cela, il faut que les mamans amènent régulièrement leurs enfants dans les centres sanitaires.
C'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et au revoir.